blanche.
40 nuances de Next.
Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathiot, Thomas Benzazon et Solène Etienne.
Ceci est un message de la French Tech. Les candidatures pour la prochaine promo du Next 40 FT120 sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 12 avril pour candidater. Alors attention, il y a quelques petits changements de critères pour cette sélection, notamment une répartition égalitaire dans le Next 40 et FT120 entre scale-up sélectionné sur des critères de chiffre d'affaires, de scale-up sélectionné sur toujours le critère de levée de fonds. Un calendrier modifié afin de prendre en compte vos revenus de l'année 2023, des critères d'indépendance et d'innovation renforcés, la fin de l'admission automatique des licornes et des engagements plus forts en matière de parité. J'en profite pour rappeler que Feuille Blanche est partenaire de la French Tech depuis 4 ans déjà avec ce podcast 40 nuances de Next, toujours dédié aux champions de la tech française et justement un champion de la tech, j'en ai un face à moi dans nos studios aujourd'hui. J'ai même un petit poème pour lancer nos échanges. Dans la forêt profonde où murmure le vent, l'énergie sommeille tel un trésor latent. Elle réside dans chaque feuille qui frémit, dans chaque rayon de soleil qui luit. Les rivières qui serpentent et les cascades qui chutent portent en elles une force brute, incontestée, absolue. L'énergie de l'eau, en mouvement perpétuel, alimente la vie tel un symbole éternel. Les montagnes majestueuses, les volcans endormis, témoignent de la puissance de la terre, de son énergie infinie. Dans les champs où poussent les blés dorés, l'énergie du soleil se transforme en vitalité. Dans ce balai incessant de la nature en action, l'énergie se déploie sans cesse en réaction. Elle unit le monde du plus petit au plus grand, rappelant notre lien étroit avec notre terre, notre parent. J'ouvre donc ce 40 nuances de Next en me cachant derrière ce petit texte. Il fallait au moins quelques vers, un peu de verve, et beaucoup d'énergie pour accueillir aujourd'hui notre invité, maître de l'énergie verte, Julien Tchernia. Bonjour.
Bonjour.
T'es le CEO d'Équateur, premier fournisseur d'énergie verte indépendant. Vous avez un ton décalé et assumé. Est-ce que ça se ressent dès le pitch? Réponse après ce jingle. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Merci ChatGPT, merci intelligence artificielle, merci innovation.
C'est ChatGPT qui a écrit le poème.
Ouais. Il m'a dit
incroyable.
Il m'a dit que c'était pas référencé. J'ai dit mais ok, mais c'est toi qui l'as écrit ou? Il m'a dit je me suis mal exprimé. C'est bien moi qui l'ai écrit. Donc j'ai dû le relancer plusieurs fois pour avoir quelque chose de cohérent. Mais ça t'a plu?
C'est très joli et surtout ça résume complètement notre vision à Jonathan, mon associé à moi. C'est que tout n'est qu'énergie. Et souvent on l'oublie, mais tout n'est qu'énergie. Là, aujourd'hui, je te parle, c'est de l'énergie mécanique qui fait passer les ondes sonores, c'est de l'énergie électrique qui enregistre dans le micro et qui fait qu'il y a des gens qui nous écoutent, et bonjour à toutes et tous, et un peu d'information. Donc on transmet de l'information, mais pour ça, on a besoin d'énergie, et ça va du blé, qui est effectivement de l'énergie solaire transformée en nourriture, qu'on va ingurgiter, qui est le même type d'énergie que la rivière, qui est de l'énergie solaire qui a fait monter l'eau en haut des montagnes, et on récupère ensuite quand l'eau descend, etc. Et donc, alors il y a les volcans aussi, là c'est de l'énergie qui date du Big Bang, puisque c'est la chaleur emmagasinée dans la planète. Mais en tous les cas, tout n'est qu'énergie. Et
quand on a cette réflexion sur l'énergie, et je vais te laisser pitcher ce qu'est Équateur, mais quand on a cette réflexion sur ce qu'est l'énergie, quand on est rentré dans le fond, est-ce que ça change l'approche qu'on a avec les gens qui nous entourent, cette approche même de l'énergie?
C'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose, j'avais complètement oublié, mais là j'y pense, que là j'étais en vacances la semaine dernière. Et donc j'ai deux filles adorables qui sont ados maintenant, et il y en a une qui m'avait demandé pendant les vacances, c'est quoi ta passion? Et je leur avais dit, c'est vous deux. Et elle m'a dit, tu dis toujours la même chose.
Trop
et tout.
Facile, papa.
Et j'ai dit, rien. Et puis ensuite, on est redescendu à un moment pour aller prendre le train. Donc, on était dans un taxi. Et je parle d'énergie avec le chauffeur. Et je parle d'énergie pendant tout le trajet pour aller jusqu'à la gare. Et à la fin, ma fille, en descendant du taxi,
le conducteur s'est pas endormi,
dit...
rassure-moi.
Non, le conducteur était très, très compétent.
Passionné et intéressé.
Passionné et intéressé, voilà. On a échangé beaucoup, puisque l'endroit, c'est une régie, il y a des barrages, il y avait des nains. Et son beau-frère travaille chez RTE, etc. Et donc, à la fin, ma fille, en sortant du taxi, elle m'a dit, mais en fait, papa, ta passion, c'est l'énergie. Comment tu fais pour parler d'énergie avec n'importe qui, n'importe quand, et pour que les gens tiennent la conversation et s'intéressent? C'est incroyable. Parce qu'en même temps, j'avais juste avant, à la patronne de l'hôtel vendu du Équateur aussi.
Et donc, en fait, tu t'arrêtes jamais.
C'est pas que je m'arrête. Ouais, je m'arrête jamais, on peut le dire comme ça, ouais. Mais en fait, je respire ça. C'est ma vision du monde.
Et ben, parlons de cette vision du monde portée aujourd'hui à travers un outil, si on peut l'appeler comme ça, qui est Équateur. Mm-hmm. C'est quoi le pitch d'Équateur? Est-ce qu'il est aussi décalé que vos campagnes de com?
Et ça fait longtemps qu'on a pu pitcher. Hein, au début, on pitchait dans un ascenseur en 3 minutes, en 1 demi-heure, devant 10 personnes à Berlin, à Paris, etc. Équateur, c'est une rencontre entre Jonathan, mon associé, et moi-même. Historiquement, chacun a son parcours qu'il a amené dans l'énergie.
Toi, t'es ingénieur.
Moi, je suis ingénieur télécom. Lui, il est ingénieur informatique. Mais il avait bossé chez Orange. Il s'est retrouvé chez Direct Energy et on s'est retrouvé ensemble chez Lampiris, qui était la filiale française d'un groupe belge qui faisait de la fourniture d'énergie. Et en fait, je l'ai recruté, je suis tombé dessus 1 semaine après avoir été recruté moi. Et on s'est dit, on peut le faire, on va le faire, et on va le faire tout seul. On a mis un peu de temps pour se lancer. Et donc, l'idée derrière, c'est un, tout n'est qu'énergie. Donc, pour sauver le monde, il suffit de changer l'énergie, c'est facile. Il y a deux moyens de le faire, soit tu produis, soit tu vends. Bon, nous, on ne sait pas produire, donc on a dit on va vendre. Et donc, notre métier, ça devient comment donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable pour changer le monde, en fait. On va commencer par les habitudes des Français. Et puis, il y a EDF en face, il y a Total, il y a Engie, et alors? Peut-être même encore plus.
Eh bien, écoute, tu me fais une transition parfaite pour cette question.
Vous avez un message?
Vous êtes sur un secteur qui est hyper compétitif, avec des acteurs très puissants, très installés, héritiers de monopoles. Il y a une course, évidemment, à la croissance, au volume. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que dans un secteur où il y avait beaucoup de start-up et beaucoup ont disparu, eh bien vous, justement, vous arrivez à tenir la distance?
C'était donc la toute première question dans 40 nuances de Next de François Bitouzet, patron de Vivatech.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tenir la distance? C'est que on a un équilibre entre le risque et la sécurité. Alors d'abord, le fait que ce soit des gros acteurs, c'est probablement pour Jonathan et pour moi un élément de motivation. On est très combatif, on aime bien gravir l'impossible. Et donc, ça n'en rend le challenge que plus beau. C'est un peu les Cyrano de Bergerac qu'on cite beaucoup. Pas bien haut peut-être, mais tout seul. Et ensuite, il y a dans le quotidien du métier d'entrepreneur des choix permanents à faire qui sont pas toujours simples, qui sont finalement un compromis entre la croissance à tout prix et la sécurité. Et on a jusqu'à présent, je touche du bois pour que ça continue, trouvé l'équilibre qui nous permet d'être toujours là et même d'avoir racheté certains l'an dernier, deux de nos confrères qui avaient décidé d'arrêter le marché ou même qui n'allaient pas bien parce qu'ils avaient pris trop de risques à un moment.
Je reviens sur le tout premier choix originel de vendre plutôt que produire et vendre, ou juste produire. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence et peut-être comme première difficulté au lancement avant d'arriver à rentrer plus officiellement et plus sérieusement dans la course?
Alors, la difficulté principale, et on en reparlera souvent, c'est qu'on est considéré dans ce secteur comme illégitime parce qu'on ne produit pas. On en reparlera tout à l'heure, je pense, c'est important, je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, et donc ça, c'est une difficulté. Sinon, au quotidien, la difficulté, c'est qu'on va acheter de l'énergie, et en général, c'est auprès de grands groupes et de monopoles historiques, français ou autres. On va acheter l'énergie auprès de quelques petits producteurs. Par contre, pour acheter du volume, il faut négocier avec Engie, il faut négocier avec Shell, avec Axpo, qui sont des Suisses, avec Total, avec Solvay, qui sont des Belges, avec Engie, EDF. Et ces gens-là vous demandent des garanties financières parce qu'ils n'ont pas confiance en votre sourire, pas suffisamment en tous les cas. Et donc, ça fait partie, tu vois, des risques qu'il fallait prendre ou pas prendre. C'est-à-dire que les garanties financières, c'est de l'argent bloqué en échange d'une sécurité. C'est-à-dire, je vais vendre à quelqu'un, je vais acheter de l'autre côté, je vais donc finalement verrouiller ma marge. Par contre, pour avoir ce droit d'acheter, on va me demander de mettre des garanties financières. Et il y a un moment où on avait 10 millions d'euros de garanties financières auprès des banques pour ces acteurs-là, alors qu'on avait levé 10 millions d'euros. Donc, tu bloques complètement ta croissance. Et donc, il a fallu trouver une sortie. Et certains ont décidé de prendre un risque, c'est-à-dire de vendre à prix fixe sans avoir acheté avec, avec un prix fixe de l'autre côté. Et puis, quand les marchés ont augmenté, ils ont trébuché et pour certains, tombé. Nous, on a préféré, à ce moment-là, ralentir la croissance et trouver une solution plus pérenne.
Tu ne vends que quand tu as acheté ?
Oui, c'est la règle d'Équateur. Je ne vends que quand j'ai acheté. Quand on n'était plus capable d'acheter, tu vois, en 2019, deux fois, on s'est retrouvé sur des beaux appels d'offres B2B avec Jonathan. Et on avait un prix d'un côté. Et on avait donc notre capacité, un coût, on va dire, et un prix qu'on était capable de faire. Et on voyait qu'on allait gagner. Seulement, le coût, c'était, mais en même temps, Julien, tu me donnes une garantie financière. Et je savais que j'étais pas capable de le faire. On n'avait plus qu'à envoyer l'offre.
Mais t'y vas pas.
On a décidé de pas y aller. Et c'est ça qui nous a sauvés. Parce qu'on aurait décidé d'y aller à ce moment-là, on était coincé. D'ailleurs,
coincé, mais toujours au niveau de la garantie, parce qu'au final, tu connaissais ton prix d'achat et tu avais validé un prix de vente.
Non, tu valides ton prix de vente parce que tu connais ton prix d'achat.
Ouais.
Mais si tu n'es pas capable derrière de donner ta garantie financière, tu n'as plus ton prix d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dire, on me propose du 81 d'un côté et je peux vendre à 85. Super, donc je vais rendre mon appel d'offre à 85. Je sais que je gagne à 85. Et derrière, je dis, vous me vendez à 80. Eux, ils me disent, mais si tu n'as pas de garantie financière, je ne te garantis pas ton 80. Et je vais te donner un prix qui va dépendre du marché. Si le mois d'après, le marché baisse, tout va bien. Mais si un an après, parce que c'est des contrats de 2 ans, 3 ans, ça passe à 160, à 200, à 1000, comme ça a fini en août 2022.
Tu parles en kilowattheure ?
Là, je te parle en euros par mégawattheure.
Ouais,
ok. Tu vois ? Donc, tu vas faire un prix en 2019 à 85 parce que pour 3 ans, tu vas avoir le truc. Et tu te retrouves en 2022 à le payer 1000 et à le vendre toujours 85. Tu fais faillite dans la demi-heure.
Ah, c'est-à-dire que le prix d'achat, lui, n'est pas constant. Et pas fixe.
Si tu n'es pas capable de donner des garanties financières...
Qui ne dépend que de la garantie. Okay.
Les gens te disent, moi, je ne te vends rien. Et donc, tu achèteras au prix chaque jour. Et donc, tu prends un risque marché énorme qui est gagnant dans certains cas. Et qui... En fait, le sujet du risque marché, c'est je peux gagner, et tant mieux. Et je peux perdre sur des courtes périodes, mais je peux perdre tellement que je ferme mon activité. Donc, tu pourrais te dire, écoute, je vais vivre avec ces up and down. Mais quand tu as des prix qui peuvent passer, comme je te dis, de 80 à 1000, et que toi, tu vends 80 à un gros volume et que d'un coup, tu l'achètes 1000, en fait, en 2 mois, tu t'arrêtes ton business. Donc, ce n'est pas que tu as perdu de l'argent, c'est que tu arrêtes ton business.
Et à la vente, on ne peut pas vendre sur du prix variable ?
Alors, tu peux vendre sur du prix variable, mais dans ces cas-là, dans l'exemple que je te présente, ce n'était pas l'appel d'offre du tout. C'est-à-dire, effectivement, si tu vends sur du prix variable, toi, tu achètes en prix variable, il n'y a pas de sujet.
Tes clients, c'est qui ?
Alors, mes clients, on a 240 000 compteurs aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de clients. On a environ la moitié de l'activité pour les particuliers, qui est notre marché de base. Et maintenant, on a aussi l'autre moitié qui est sur des professionnels. On a environ 5 000 clients professionnels qui ont beaucoup de compteurs. Tu vois, on a toute la direction des achats de l'État, par exemple. Tous les ministères de France, c'est nous. Là où j'étais au ski, le Club Med de La Rosière, c'est nous. Des clients de ce type-là.
Pourquoi ce passage en B2B, au-delà du fait que c'est un marché ?
C'est une question qui est peut-être un enseignement pour les entrepreneurs. On a démarré Équateur, on fait du B2C. Il n'y a pas de doute, mais zéro doute. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on sait faire. Là où on est fort, c'est... pas l'achat d'énergie en gros volume, c'est la gestion des petits compteurs. On est fort en informatique, on est fort en gestion client, donc c'est là où on va faire la différence. Et donc, on fait du B2C, point barre. Et on n'a même pas encore démarré Équateur, on n'a même pas, je crois, annoncé la marque encore. Je suis appelé par une journaliste qui pensait que j'étais encore dans mon ancien job. Et je dis, non, je ne suis pas dans mon ancien job. Là, j'ai recréé un nouveau fournisseur. Ah bon ? Elle me dit, oui, raconte. Je dis, je t'en parle pas trop, j'en parlerai bientôt. Et elle fait une brève dans son journal. Je me fais tuer par l'agence de presse. On avait dit qu'il y avait une exclusivité jusqu'à telle date et tout. Merde, désolé, j'ai trop parlé.
Premier apprentissage média.
Voilà, c'est un peu ça. Sauf que 2 jours après, il y a quelqu'un qui appelle Bonjour, je suis l'acheteur de la direction des achats de l'État pour l'énergie. J'ai vu que vous créez un nouveau fournisseur, je veux vous rencontrer. Oh ben non, j'ai dit...
Nous, on fait que du B2C.
On fait que du B2C. Non, non, mais ça peut m'intéresser quand même parce que c'est pour les petits compteurs. Ah non, mais on n'a même pas encore la licence. Non, non, mais je veux vous rencontrer. Et là, je me suis rappelé quand même tout ce que j'ai appris dans la vie professionnelle. Et je me suis dit, mais pourquoi déjà ça fait deux fois que tu dis non, t'arrêtes et tu dis oui. Alors je dis, bon, ben super, écoutez, parfait, on vient vous voir. Ah non, 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 je vais venir dans vos bureaux. Alors ça n'allait pas, parce que les
donc
bureaux...
on loue des bureaux, on loue des faux, des faux collaborateurs, on fait venir les copains.
C'est ça, si tu veux, maintenant il nous raconte, il dit, je les avais vus les tréteaux, monsieur Tchernia, sous la nappe. On avait mis une planche de tréteaux et une nappe que j'avais ramenée de chez moi. Et en fait, il avait besoin du service qu'on savait faire. Dans son appel d'offres, il avait besoin de concurrence d'abord, parce que c'était important pour lui. Il en avait assez d'avoir uniquement, en gros, les trois acteurs principaux tout le temps. Donc, il voulait de la nouveauté.
À ce moment-là, tu ne dis pas, comme ça arrive parfois, qu'on demande peut-être de répondre à l'appel d'offres juste pour avoir un concurrent en face de celui qui était déjà tout désigné?
Alors ça, oui, c'est toujours la question. Mais si tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Donc voilà, il faut jouer, c'est tout. Et puis, si les gens te prennent...
Ça me rappelle une campagne de com du loto, la française.
Voilà, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance, exactement. Si tu dis, je ne vais pas le faire parce que je vais perdre, de toute façon, bon, bah, tu ne démarres pas ta boîte. Hein. Ça n'a pas de sens. Enfin, y a quelqu'un qui veut te voir comme lièvre, très bien, eh ben, peut-être tu vas gagner quand même. Hein. Ça, c'est absolument... Non, ça ne vient jamais à l'idée.
Donc, finalement, premier client, c'est un client B2B.
Oui.
Là, tu pourrais dire, je vais lancer... full B2B ou lancer en parallèle et déployer le B2B et le B2C en même temps, c'est pas ce que tu veux faire.
Donc non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue sur le B2C. C'était notre idée et notre envie aussi. Et on a ensuite d'autres clients B2B qui sont venus et une marque de luxe. Pareil, j'ai fait des petites erreurs de communication, mais finalement, on a gagné le contrat. Et ensuite, on a fini par recruter quelqu'un pour se dire, bon, bah, finalement, il y a un vrai marché, en fait. Et donc, on a trouvé quelqu'un qui a essayé de développer. C'est pas facile. Il n'a pas réussi, la première personne qu'on a recrutée. Malheureusement, il n'a pas réussi à développer le marché.
C'est quoi les objections, pardon? J'ai besoin de comprendre. Ça explique aussi pas mal le positionnement. C'est quoi les objections à la fois des particuliers que vous allez chercher, mais aussi des grands acteurs publics ou privés en B2B?
Alors, les objections des particuliers, c'est simple. La plus grande objection, c'est qu'ils ne savent même pas que c'est possible de changer de fournisseur. Et ensuite, une fois...
Ou juste, ça les embête.
Et voilà, une fois qu'ils le savent, non, ça les angoisse. EDF, qui est notre concurrent principal, a une marque extrêmement forte. EDF, pour un Français, c'est le Conseil national de la résistance, c'est l'indépendance énergétique, c'est le champion français, c'est le général de Gaulle, c'est nous. Même moi, quand j'étais chez L'Empiris... quand j'étais donc directeur de la filiale française de ce groupe belge, quand je suis devenu client L'Empiris à titre perso, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit « ça y est, j'ai fait la bascule ». Et ma compagne m'a regardé, elle m'a dit « est-ce que tu sais ce que tu fais ?»
Tu es un traître à la nation.
Et moi, j'ai paniqué. J'ai dit « mais est-ce que c'est vraiment ce que je fais ?» Puis je me suis rappelé que j'étais patron France et que donc il ne pouvait rien m'arriver. Donc, tu as une angoisse réelle qu'il faut gérer. Donc, c'est une sorte de courbe de deuil. C'est « ben oui, il y avait un service public, il n'y a plus ». Ça avait des avantages et des inconvénients. Maintenant, on est dans un nouveau monde et on va vous montrer que nous, on apporte plus d'avantages ce que vous avez perdu avec la simplicité d'un tarif unique et d'un interlocuteur unique. Le tarif unique et l'interlocuteur unique, c'est je ne pense plus et je suis tranquille et je laisse à des sachants le droit de décider. Nous, ce qu'on apporte, c'est tu vas pouvoir par ton action influencer la politique énergétique française autrement que par ton vote. Et donc, c'est la liberté qui est toujours un peu plus dure que tu connais le loup et le chien de La Fontaine?
Alors, je ne saurais pas... Je me suis fait des chats GPT pour mon poème tout à l'heure, donc là, je ne saurais pas te le reciter, mais tu le connais par cœur?
Non, je ne le connais pas par cœur.
Mais tu peux me raconter
la morale. L'histoire, c'est que tu as un loup qui est très maigre et qui a faim, qui est dans le bois, qui rencontre un chien qui est tout gras et très heureux, et le chien lui dit « mais qu'est-ce que tu fais tout maigre ?» Et l'autre, il dit « je ne sais pas, comment tu fais, toi ?» Ah, je me fais bouffer, je me donne à bouffer, on me fait à manger, je me fais caresser, c'est une vie très très belle. Et l'autre, l'autre, il dit, ah ben, j'ai envie, et qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Ben, j'aboie un peu quand les gens passent, et puis c'est tout. Et là, le loup, il regarde, il dit, mais t'as quoi autour du cou, là? Ben, rien, c'est un collier. Mais c'est quoi cette histoire de collier? Ben, rien, je suis... Et donc là, le loup comprend et s'enfuit tout seul, tout maigre, dans la forêt. Donc, évidemment, t'as la sécurité du chien et la liberté du loup. Et donc, la liberté, c'est toujours plus risqué. Par contre, ça te donne plus d'opportunités.
On parle d'énergie verte. Mm-hmm. Sur votre site, je crois que c'est la première chose qu'on lit, c'est que c'est pas cher. Et c'est pas le premier argument qu'on imagine pour parler d'énergie verte. Et pourtant, j'imagine que là aussi, c'est une objection, le prix. Comment on fait du vert moins cher?
Alors, on n'est pas toujours moins cher. Ça dépend des périodes. Donc, en ce moment, effectivement, on est moins cher. En fait, c'est moins cher par rapport à quoi? Et c'est tout simplement une question de formule ou de méthode d'achat. Nous, on est des commerçants, des revendeurs, donc on va acheter pour revendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, le tarif réglementé de vente, qui est ce à quoi tout le marché se compare en électricité, à une certaine formule, considère que l'énergie a été achetée dans les 2 années précédentes pour l'année suivante. Et donc, que finalement, le coût que j'ai pour vendre l'énergie, c'est la moyenne des 2 dernières années. Nous, chez Équateur, notre formule principale, c'est la moyenne de la dernière année. C'est-à-dire qu'on n'achète qu'un an avant, pas 2 ans avant pour les particuliers. Et comme en ce moment, il y a 2 ans, il y avait une énorme crise. Donc, dans les tarifs réglementés de vente de cette année, il y a encore un bout de la crise, alors que nous, il n'y a plus. Et donc, on achète moins cher la même énergie parce qu'on ne l'a pas acheté au même moment. C'est un jeu de trading, en fait. Et ça, c'est la première chose. C'est ça qui fait qu'on est vraiment très compétitif en ce moment. Et la deuxième chose ensuite, plutôt sur du long terme, c'est que on doit être capable, et ça c'est la raison d'être technique d'Équateur, de faire notre service, notre métier c'est de faire de la facture et de répondre aux clients, moins cher et plus efficacement que les gros concurrents. Et ça c'est la on va dire le socle.
Je pense que c'est le moment parfait pour ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Julien, les ondes sont à toi.
Ben merci. C'était mon métier au départ, les ondes électromagnétiques. La carte blanche, moi, je voudrais justement parler de la libéralisation du marché de la fourniture. On est très souvent attaqué sur la légitimité de notre métier. Vous êtes fournisseur, vous n'êtes pas producteur. Comment tu te permets de vendre de l'énergie que tu produis même pas? Mais qui es-tu, toi, alors que bon, ben, y a des gros, des EDF qui sont beaucoup plus légitimes que toi, voire même, finalement, tu ne sers à rien, tu es inutile. Et puis, je me fais même parfois insulter sur les réseaux sociaux, parasites, vampires, voire même menacés de mort.
Ah oui?
Ah oui, on devrait vous glyphosater, vous méritez d'être pendu haut et court sur la place publique. Et donc, t'as un climat d'une certaine partie de la population qui dit « c'est pas légitime ». Et ce n'est pas possible de vendre quelque chose qu'on n'a pas produit. Alors d'abord, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
Beaucoup de choses sont achetées puis revendues dans le commerce.
Bien sûr. Mais tu regardes n'importe quel site pour les hôtels. Ils achètent et revendent. Les vendeurs de journaux, c'est pas eux qui écrivent les journaux. Les vendeurs de tomates, c'est pas eux qui produisent les tomates. Enfin, tout, en fait.
On parle même pas du dropshipping.
Et t'as le dropshipping, et puis t'as le deuxième niveau. Et puis on répond parfois, oui, mais c'est un produit de première nécessité. Mais enfin, les médicaments aussi, et les pharmaciens ne produisent pas leurs médicaments. Ils le faisaient au 19e siècle, mais ils ne le font plus. Donc, en fait, le modèle, c'est ça. Et puis, parfois, t'as des boutiques intégrées. Tu peux acheter des Nike dans la boutique Nike ou dans la boutique multimarque à côté de chez toi. Et donc, d'abord, c'est tout à fait normal, en fait. Il n'y a rien de spécial. Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, l'énergie est la même. Et ce n'est pas parce que vous êtes chez Équateur que l'électricité ou le gaz qui sort de vos prises ou de vos tuyaux va changer. Par contre, l'offre tarifaire, tu en as parlé tout à l'heure, le modèle de pensée, lui, est différent.
Et puis la production aussi.
Et c'est ça, c'est-à-dire que nous, en fait, on ne va pas acheter au même producteur. Donc, ton argent, il va aller là où tu veux. En achetant chez Équateur ou chez un autre, tu vas choisir à quel producteur tu donnes ton argent. Donc ça, c'est important, c'est une traçabilité financière. Et puis, la concurrence va créer des nouveautés. C'est-à-dire qu'un monopole mature n'a pas d'intérêt à évoluer. Et j'ai des exemples comme ça, tu vois. En France, c'est EDF qui a 95% du territoire, et puis il y a quelques régions qui sont autonomes. Les plus grosses, c'est Grenoble, Strasbourg, Metz et Bordeaux. Et nous, on a été les premiers à amener la concurrence à Grenoble pour les particuliers. C'était en 2017. À Grenoble, depuis 1947, ils n'avaient qu'un prix, le tarif réglementé de vente de Grenoble. Et c'est pas la réglementation, c'est pas les pouvoirs publics qui ont réussi à faire évoluer ça. Nous, c'est on est arrivé privée. En juillet et on a dit, ben nous, on arrive et on fait une offre 100% verte et on fait une offre à prix fixe et on a mis 3 pubs à Grenoble. J'ai eu, je sais pas, 35 clients. Donc, on peut dire que commercialement, j'ai pas été très efficace.
Par contre, ça m'a l'air un peu plus grand, moi, Grenoble.
Oui, c'est plus
ça,
grand, je confirme. Mais par contre, en septembre, à l'époque, ça s'appelait Gaz et Électricité de Grenoble, ils ont d'un coup créé une offre 10% moins chère, une offre étudiante et une offre 100% verte. Donc, notre arrivée...
Ça fait bouger le marché.
A fait bouger le marché au bénéfice de tous les Grenoblois. Et donc, tu as d'autres exemples comme ça. C'est-à-dire que la réglementation permet de canaliser et de vérifier certaines choses, c'est très important. Et la concurrence permet de créer d'autres opportunités. Et donc, profitez-en, faites-le, faites jouer la concurrence. Alors, venez chez nous ou chez un autre. Mais en tous les cas, vous avez cette possibilité. Et c'est une force et c'est une possibilité en plus qui, dans l'énergie, je trouve qu'on a retiré aux Français l'envie ou le droit ou la possibilité d'agir sur la politique énergétique. EDFC, c'est des bons. Les mecs, ils ont fait Polytechnique. Ils savent ce qu'ils font et ça marche très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche un peu moins bien. Enfin, en 2022, ça a moins bien marché. En 2023, ça a très, très bien marché. La boîte a fait 10 milliards d'euros de bénéfices. Félicitations. Il y avait une crise de l'énergie. Ils ont su en profiter. Et,
c'est un petit tacle. Gentil.
Bah, non, je suis content qu'ils aient gagné de l'argent. Je regrette qu'ils aient perdu de l'argent en 2022 parce que ça veut dire que leur moyen de production ne marchait pas et ça a fait augmenter beaucoup les prix de marché. Bon. Mais c'est une boîte qui, quand même, globalement, va bien. Sur certains aspects. Et tu peux leur laisser ce choix-là, qui est, eux, ils ont décidé que le meilleur moyen de produire, c'était le nucléaire. Et si tu n'as pas la concurrence, en tant que Français, tu n'as pas le choix. Tu choisis leur politique. Alors qu'avec la concurrence, tu peux dire, ben non, moi, je préfère, je ne sais pas, le renouvelable.
Alors justement, tu m'amènes à un double sujet dans les débats qu'il y a eu. Il y avait cette idée quand même que le nucléaire reste une énergie décarbonée.
Bien sûr.
Ce qui est plutôt positif pour la planète. C'est quoi l'énergie proposée par Équateur, justement? Qu'est-ce que vous achetez? Du solaire, de l'éolien? Enfin, tu peux peut-être, parce qu'on n'a pas tellement déroulé là-dessus.
Donc nous, on vend de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire solaire, éolien, hydraulique pour l'électricité, biométhane pour le gaz. On vend du bois aussi, en petite quantité, mais du bois qui vient de forêts éco-gérées, puisque si tu fais repousser le bois que tu brûles, c'est renouvelable. Et voilà, c'est ce qu'on propose. Et pour autant, et c'est important parce que là aussi, on nous fait souvent des mauvais procès, on n'est pas contre le nucléaire. Et c'est très, très bien que ce soit une énergie décarbonée. Et ce n'est pas parce que je suis charcutier que je déteste le bœuf. Tu vois, je vends du saucisson. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le saucisson. Et je pense qu'à long terme, c'est le renouvelable qui va gagner. J'en suis même convaincu. Cela dit, à long terme, et on parle de transition énergétique, on ne parle pas de bascule immédiate. Et en France, il y a un faux débat nucléaire contre renouvelable. Le vrai débat, il est nucléaire contre charbon. Le nucléaire et le charbon se substituent, ce sont des productions de base. Et le nucléaire, aujourd'hui, malgré ses déchets et malgré ses risques, est, à notre sens, meilleur que le charbon, parce que le charbon, lui, crée du CO2, qui crée d'autres types de risques qui sont beaucoup moins gérables.
On entend souvent, alors là, je parle en pur novice, citoyen, spectateur des débats contemporains, mais des questions sur l'efficacité à produire et à garantir une stabilité de production de toutes les énergies renouvelables. Alors, certes, tu n'es pas producteur, donc tu es un peu moins concerné, mais tu restes quand même concerné parce qu'à la fin, c'est ce que tu peux acheter et donc revendre.
Alors, si on est concerné, parce que notre métier, c'est d'être responsable d'équilibre, donc on doit s'assurer qu'on a autant d'énergie à chaque instant que nos clients en consomment. Et chaque fois qu'on se trompe, on paye une pénalité.
Et ça, vous avez la main là-dessus ?
Oui, c'est à nous de nous assurer qu'on a acheté chaque demi-heure en électricité, chaque jour en gaz, autant d'énergie que nos clients en consomment. Et tu l'annonces la veille pour le lendemain et puis tu payes une amende chaque fois que tu te trompes. Donc, tu te trompes de toute façon tous les jours. Et le but, c'est de se tromper le moins possible.
Très entrepreneurial quand même.
Bon, c'est le système électrique et gazier. Donc, on parle de transition à nouveau. Donc, évidemment, le renouvelable aujourd'hui est intermittent. et les systèmes de production centralisés le sont moins. En même temps, tu as une progression énorme de toutes les technologies dans un certain sens. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'historiquement, la communication, les télécommunications n'étaient pas très développées. Moi, quand j'étais jeune, on avait les Minitel et avant, il n'y avait rien. Et donc, c'était impossible d'imaginer de récupérer des infos des consommateurs pour avoir une rétroaction sur la production. Il n'y avait qu'une seule information, c'est le fameux 50 Hz. Tu sais, le courant, il est à 50 Hz de fréquence. Et quand les Français consomment trop, la fréquence baisse. Et quand les Français ne consomment pas assez, la fréquence augmente. Et donc, ça, ça se fait automatiquement, c'est physique. Et donc, en lisant ça, automatiquement aussi, les centrales de production s'adaptent. Et donc, ça fait un signal. Et on utilisait ce signal qui permettait dans un système, qui imposait un système centralisé. Et donc, c'est la production qui s'adaptait à la demande uniquement. Et ça marche très bien.
Oui.
Sauf qu'on peut aller plus loin maintenant, puisque maintenant, je suis capable de récupérer plein d'infos et que ne serait-ce que chez moi et peut-être chez toi, j'ai des thermostats et je décide à quel moment dans la chambre il fait telle température, à quel moment dans le salon il fait telle température.
La programmation permet en avance de savoir ce qu'il y aura à produire.
La programmation et même, tu veux, tu peux... Nous, on a un système qu'on peut installer chez les gens, qui est gratuit, qui permet de programmer son chauffage et qui surtout aussi, qu'on peut commander. Et donc, quand il y a un pic de consommation, on peut demander à tous nos clients qui ont... Enfin, on va arrêter chez tous nos clients qui ont ce système-là pendant 5 minutes, 10 minutes, le chauffage électrique. Donc, on va baisser la consommation. Au lieu d'augmenter la production, tu vas baisser la consommation. Toi, ton chauffage s'arrête 5 minutes, 10 minutes, tu ne vois pas la différence. Hein. Ton chauffe-eau, il s'allume à 23h30 plutôt qu'à 23h25, tu ne vois pas la différence. Et par contre, donc, tu as adapté la consommation. Donc, ça, c'est la nouveauté. Ensuite, tu as des technologies renouvelables qui ont tenu leurs promesses en termes de coûts de production. Quand j'ai fait ma formation en énergie, puisque j'étais ingénieur télécom au départ, donc en 2007, j'ai fait un master en énergie.
C'était plus le Minitel, là, on est au niveau Internet.
On est déjà au niveau Internet et on est arrivé au smartphone, tu vois, le monde avait changé. Et un panneau solaire, par exemple, produisait pour, en gros, 500 euros du mégawattheure. Alors que le nucléaire, à l'époque, si on compare, produisait à 42 euros du mégawattheure. C'était excessivement cher. Aujourd'hui, l'équation s'est inversée. On arrive à produire en Espagne à 20 euros du mégawattheure avec un panneau solaire, en France plutôt à 40. Et par contre, l'EPR, par exemple aujourd'hui, EDF annonce des prix en sortie à 120 euros du mégawattheure. Donc, tu as déjà des coûts de production aujourd'hui qui sont beaucoup moins chers dans le renouvelable. C'est positif parce que ça pousse des boîtes qui n'ont pas nécessairement l'envie de sauver la planète à court terme, comme Total, à développer à fond le renouvelable parce que c'est moins cher et c'est facile à déployer. Il y a évidemment un défaut qui reste, c'est intermittent. Hein, le panneau solaire, il va produire que la journée, quoi. Et donc, comment tu fais ? Et là, la solution, en plus de gérer la consommation chez les clients, c'est aussi le stockage. Et là, on voit que ça s'améliore.
Ça
on
n'est
pas encore arrivé à des systèmes qui permettraient de gérer en tout un pays. Par contre, tu vois, les voitures vont plus loin qu'avant, etc. Donc, il y a une amélioration technologique qui va permettre une transition petit à petit. Pour autant, on ne va pas tout jeter. Je crois beaucoup, moi, en la décentralisation. C'est-à-dire que nous, on pousse nos clients à devenir producteurs eux-mêmes. Pourquoi est-ce que j'irai toujours acheter chez des gros producteurs ? Donc, mettez des panneaux solaires chez vous et puis vendez-nous le surplus et on va s'en servir pour alimenter les autres clients. Et tu auras en plus comme ça c'est ma vision.
C'est un cercle très vertueux.
Voilà. Moi, je trouve ça très vertueux. Chacun reprend le pouvoir. T'es plus résilient parce que si tu as beaucoup de producteurs, bah c'est moins facile à faire casser qu'un défaut générique qui va toucher, comme ce qui s'est passé en 2022, un tiers des centrales nucléaires françaises. Et en plus, c'est de l'indépendance énergétique. Le soleil, on ne va pas nous le voler. L'eau, on ne va pas nous la voler. Alors que l'uranium ou le charbon, on peut nous empêcher d'en avoir.
Et pour un particulier, le fait d'installer typiquement des panneaux solaires, ça te rend autonome complètement sur ta consommation ?
Non, ça ne te rend pas autonome. Ouais. D'abord, il y a toujours le jour, la nuit.
Ouais.
Par contre, c'est une manière pour nous de vendre de l'électricité. C'est presque que tu la vends en prépayé. C'est-à-dire que tu vas acheter tout de suite ton électricité et ça te donne un prix fixe pour 20 ans. Finalement, puisque tu as acheté, puis après, tu ne la payes plus, toutes celles que tu produis pendant que tu consommes. Et aujourd'hui, on est à des coûts qui sont de l'ordre de 50% moins chers que ce que tu achètes sur le réseau. C'est-à-dire que si tu prends l'énergie qui sera produite par ton panneau solaire sur sa durée de vie et que tu divises par le prix, eh bien, c'est deux fois moins cher que si tu achetais cette énergie sur le réseau.
Donc, tu rentabilises
Tu rentabilises en 50% du temps. Donc, si tu prends... Ouais. On a des tout petits panneaux qui valent 700 euros, tu vas les rentabiliser tout de suite. On a des gros panneaux quand tu installes sur un toit où tu vas rentabiliser en 10 ans parce que ça dure 20 ans.
Et ça, vous le vendez?
Et ça, on le vend, bien sûr, bien sûr. C'est de l'énergie renouvelable.
Ouais.
On n'est pas obligé de vendre à travers un fil. On peut vendre la manière de produire chez soi de l'énergie renouvelable.
Pour rester sur les grands débats fin du monde contre fin du mois, vous, finalement, a priori, vous répondez aux deux. Qu'est-ce qui génère le plus d'appétence
au niveau
côté
client,
consommateur,
vente, ouais. Côté consommateur, il y a eu un changement de paradigme. Jusqu'en 2018, les gens n'avaient rien à faire du renouvelable. Ce n'était pas un argument de vente, c'était un argument de fidélisation, pas un argument de vente. Et depuis 2018, alors la crise de l'énergie a peut-être encore un peu changé à nouveau, mais entre 2018 et 2022, on a vu un changement. Les gens venaient pour le renouvelable, pour agir. C'était une espèce de prise de conscience collective qui est arrivée. C'était assez nouveau pour nous, parce que avant c'était par choix qu'on vendait du renouvelable, mais c'est pas ça qu'on
mettait en avant,
plus en avant. On l'était, c'est tout. Et maintenant, ça c'est devenu une force. Il y a une réalité quand même, c'est que les prix sont envolés pendant la crise énergétique. Hein. On a acheté très très cher l'énergie, donc on a dû la revendre très très cher. Et donc là, il y a eu quelque chose qui a été très dur pour nos clients, avec des factures qui parfois ont explosé, beaucoup qui se sont plaints ou qui ont eu du mal ou qui n'ont pas pu payer. Et en majorité, ça a créé une baisse de la consommation. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est toute la France, c'est comme ça, mais chez Équateur aussi, on a une consommation qui a baissé de 12% par rapport aux années précédentes. À quelque chose, malheur est bon. Tout le monde pensait que, quel que soit le prix de l'énergie, les gens allaient consommer autant. Ben non. Ils sont passés à 19 degrés chez eux plutôt que 21. Et en plus, ça ne remonte pas. Donc, tu as quand même eu aussi, tu vois, des changements de comportement à cause du prix. Et donc, là, tu as un truc positif, c'est ta fin de monde, fin du mois. Bah tiens, pour améliorer ma fin du mois, je consomme moins, je paye moins cher et ça aide à lutter contre la fin du monde.
Ça a donc aussi changé, j'imagine, votre manière de communiquer. Alors, les Parisiens, mais pas que, je crois, hein, vous ont peut-être découvert pour les plus récents grâce à vos campagnes de communication. Et on a justement une première question là-dessus.
Vous avez un message.
Bonjour Julien, c'est Étienne de Madinès. On a vu qu'Équateur avait récemment lancé une campagne d'affichage dans le métro parisien et je voudrais savoir combien ça coûte et à quoi ça sert pour une start-up. Est-ce qu'il y a aussi un côté statutaire?
Alors, il y a un côté statutaire, c'est sûr. Tu vends de l'énergie, c'est un produit qui est complètement immatériel et c'est le même pour tous et c'est la même qualité. C'est encore plus similaire que choisir son opérateur téléphonique. Où là, tu peux te dire, moi, mais j'ai une meilleure réception chez Free plutôt que chez Bouygues. Nous, non, ce sera la même qualité de service pour tout le monde puisque le réseau reste un service public. Donc, beaucoup de nos concurrents ont essayé de vendre le prix avec un petit peu de service en plus, alors du verre, etc. Donc, équivalence de service pour moins cher. Équivalence de service pour moins cher, mais qui n'est jamais vraiment moins cher, beaucoup en tous les cas, puisque de toute façon, finalement, tout le monde achète au même prix de marché. Donc, quand on dit qu'on est 10% moins cher, c'est très bien. Au total, ça fait aller peut-être 10 euros de moins par mois. Donc, c'est pour la plupart des gens, heureusement, c'est pas significatif. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est la marque. Et c'est votre métier, je crois, mais ce qui compte, c'est la marque. C'est ce que tu racontes, ce que tu es.
Merci pour le POC.
Non, mais c'est vachement important. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça en tant qu'ingénieur. En fait, j'ai pas compris que ce qu'on vendait, c'était notre marque jusqu'à ce qu'on gagne en 2018 à Reykjavik le prix de la meilleure marque verte du monde. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on fait. On l'a pas fait exprès, mais c'est ça qu'on fait. Et donc, la pub, évidemment, sert à augmenter améliorer le statut. Alors là, sur la campagne parisienne, on a eu de la chance, c'est qu'on n'a pas été recouvert.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a acheté une semaine et ils n'ont pas eu d'autres clients et donc on est resté.
Incroyable, c'est pour ça que.
Donc on a.
Je me suis dit que vous aviez levé plus que ce qui est annoncé.
Et dernier point, ça c'est pour les autres entrepreneurs. Ça fait plusieurs fois que je fais des campagnes d'affichage depuis que je bosse dans le secteur et le B2C. Et j'ai enfin assez d'argent pour faire le seul truc qui va marcher à mon avis, c'est-à-dire en faire plusieurs fois dans l'année longtemps. Faire juste un one shot comme j'ai fait parfois parce que j'étais limité dans les budgets. Et je pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. En fait, il faut, si on commence ça, il faut être capable de le faire sur toute l'année. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire en 2024.
Et c'est ce qu'on voit aussi dans le podcast où certains annonceurs veulent un host-read juste sur un podcast, juste sur un mois. Effectivement, c'est forcément pas suffisant. Donc, je remercie tous nos partenaires de nous suivre à l'année. Merci pour m'avoir permis de les placer. Sur cette com, vous n'avez pas toujours eu un ton si décalé, je crois, ou en tout cas pas autant de moyens pour le faire entendre. Et d'ailleurs, t'as pas répondu à la question d'Étienne sur le coût d'une campagne comme ça.
J'ai pas la réponse, c'est plus moi qui gère. J'ai mon responsable, mon chief revenue officer qui a son budget. Il a dépensé son argent. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Je l'ai pas en tête. Je veux pas dire n'importe quoi.
En tout cas, pour rester sur cette notion de com, il y a un sujet nous chez Feuille Blanche qui nous intéresse beaucoup. C'est le narratif du dirigeant. Quel temps tu consacres à ta communication plus personnelle qui sert inévitablement la boîte. Ce qui change avec toi. Versus d'autres invités qu'on a pu recevoir à ce micro, c'est que quand on tape ton nom dans Google, on retrouve des occurrences dans Les Échos, dans Challenge, ok, comme beaucoup, mais aussi alors dans célèbres blogs ou encore Planète Superstar, des des médias que je connaissais pas, parce que ils disent que c'est ton père, mais j'ai appris que non. Mais tu es de la famille de Pierre Tchernia.
Et tout à fait, c'est mon grand-oncle.
Et ma question, donc je reviens sur ta posture de dirigeant et comment tu gères ta com personnelle. C'est propre à chacun. Est-ce que c'est des questions même que tu te poses ou simplement tu réponds aux invitations comme aujourd'hui?
Ah, je réponds aux invitations. On structure un peu plus. Jusqu'à présent, c'était voilà, j'ai des choses à dire, je les dis. J'ai pas de choses à dire, je me tais. J'aime beaucoup parler avec mes clients en direct. Je le fais un peu moins en ce moment. Sur Twitter, jusqu'à avant la crise, je passais mes vendredis à répondre, à débattre avec tout le monde.
À tous les gens qui t'insultaient et te menaçaient de mort aussi.
Ouais, alors il y en avait moins à l'époque. Et même, si tu veux, on avait créé une communauté de gens sur Twitter qui étaient des clients Équateur et j'ai fini par faire un déj avec eux. Et on s'est tous retrouvés. Enfin, c'était assez sympa. Et je dis bonjour à Mbout32 et à Numeric Institute. Et donc ça crée une communication, mais c'est une envie. J'ai un plaisir de ça. Tu vois que j'ai des clients qui m'écrivent des mails des fois en direct. Je suis pas content. Je comprends pas ma facture, etc. Bon, je les appelle. Je me souviens, le chief revenue officer qui était à côté de moi, il venait d'arriver et il me voit prendre le téléphone, appeler et bonjour. C'est Monsieur Tchernia. Vous m'avez écrit un mail. Et il était tout surpris que j'appelle directement le client. Alors qu'en fait...
Oui, c'est parce qu'on projette toujours du job et du temps forcément contraint et donc des priorités d'un CEO d'une X40.
Quand vous appelez, la personne dit tout de suite « Ah oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais si. Non, mais je partirai pas chez Total. Non, mais très bien. » Et donc, déjà, vous avez en fait résolu le problème. Il voulait juste être écouté. Et vous démontrez que vous les écoutez. Et ça, c'est vachement important. Écouter ses clients, c'est la base. Et puis, on apprend beaucoup.
Et c'est important, ouais, même à la tête d'une boîte qui a bien grossi, d'avoir encore l'oreille du terrain.
C'est ça, c'est très important. On apprend des trucs. On se rend compte de certaines choses. Voilà, tiens, là, j'ai un client qui m'a écrit. Enfin, il a écrit à Équateur, il m'a mis en copie en disant, je comprends pas, vous m'aviez dit que cette information, je l'avais 30 jours avant. Et là, je l'ai pas eu 30 jours avant. Comment c'est possible? Je suis responsable service client, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, là, depuis un certain temps, mais que 20 jours avant. Je dis, quoi, comment c'est possible? Il faut corriger ça. Donc, tu vois, tu récupères des infos qui sont intéressantes. Et puis, tu montres l'exemple aussi. Si tu es une boîte qui fait du service et qui fait de la relation client un des points clés de sa différenciation, si toi, comme patron, tu t'y intéresses, tu participes et mon associé fait la même chose, le reste de la boîte comprend et le voit. Et ça, c'est vachement important.
La question de l'expérience utilisateur, elle est commune à toutes les boîtes qui marchent. C'est quoi le petit plus ou le petit sujet sur lequel vous avez craqué quelque chose par rapport aux concurrents en matière d'expérience client?
Alors nous, on a été précurseurs sur beaucoup de sujets. Le premier, c'est le choix de sa centrale. Donc, tu peux sur le site choisir non pas seulement de l'énergie renouvelable, mais choisir que ton argent va aller à la centrale éolienne du Languedoc ou au petit barrage des Hautes-Alpes. Ou, voilà. Et donc ça, c'est vachement important parce que comme ça, les gens retrouvent un contact avec la production.
Et le sentiment, oui, d'être acteur.
D'être acteur, exactement.
On a une rubrique que je te propose. Je vois le temps qui file, excuse-moi, j'en vois. Alors, c'est première ou dernière fois, question rapide, je te lance, réponse rapide et puis éventuellement on prolongera. Dernière nuit blanche.
Dernière nuit blanche.
J'aime beaucoup celle-là.
Il faut que je donne quoi, une date?
Tu peux, mais on va dire, moi, de savoir que c'est un jeudi m'intéresse moins que de savoir pourquoi.
Dernière série de nuit blanche en fin 2021.
Ok, pourquoi?
On avait raté l'IPO.
Ah, attends. Wow. Je suis au taquet sur les jingles. Ça, c'est le jingle de la rubrique La Claque et je sais que c'est ta claque.
Ben voilà, donc c'est ma claque. Donc on est en... On va repartir au début. On est fin 2020 avec le board. On décide que il faut faire une IPO, qu'on est prêt, qu'on est mûr. On espère lever au moins 30 millions d'euros avec des valos énormes. Donc, on bosse. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissements personnels et humains et financiers. Hein. C'est plus d'1 million d'euros entre les avocats, les banques, etc., etc. On bosse comme des fous et on nous explique que franchement, on allait cartonner, quoi. Que ça allait être, mais la plus belle IPO de l'année. Tout le monde nous conseille de le faire. Tout le monde nous dit d'y aller et tout va très bien et c'est formidable. Et on bosse comme des fous. Et on arrive au moment de l'IPO. Là, tu fais des... Donc déjà, normalement, tu as des pré-bookings. Et ouais, ils sont d'accord, mais presque, mais pas, mais presque. Tout. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu commences à rencontrer tous les investisseurs. Et c'était au moment du Covid. Enfin, 2021, il y avait encore des confinements. Mmh. Donc, on faisait tout à distance. Et on devait voir tous les jours, pendant une heure, on faisait 8 sessions.
Toi et ton associé.
Moi et mon associé, dans une salle, une caméra, 8 sessions. Très dur. Je me souviens un jour, on arrive dans la salle le matin à nouveau avec notre petite valise et tout, et tous les employés qui nous applaudissent et qui nous filent des fleurs. Et émotion. Et ça rate. Ça rate, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à lever l'argent dont on a besoin. Et on en avait besoin. Et donc, on arrive en juillet, on n'a pas l'argent, quoi. Et donc, il faut... il faut retrouver de la motivation, il faut que l'équipe reste en forme et il faut trouver de l'argent ailleurs. Et donc là.
Parce que là, l'avenir de la boîte est menacé.
Bien sûr. Donc, au début, ça va, ce qu'on avait, mais quand t'arrives en décembre, que t'as toujours pas trouvé la solution et que là, il te faut 15 millions d'euros pour passer à mars, quoi. Là, oui, tu dors plus. Ouais, là, tu dors plus.
Alors, il y a eu. T'es encore là, hein? Ouais. On parle pas d'Équateur au passé. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ben, on a eu la chance de rencontrer un family office qui s'est intéressé de près à Équateur et qui a, lui, mis les 30 millions d'euros en avril 2022 dont on avait besoin.
Avec une valo moindre que pour l'IPO.
Avec une valo moindre que pour l'IPO, exactement, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, évidemment, ouais. Mais on était content quand même. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Des gens qui étaient.
Il aurait pu mieux négocier.
Non, je pense pas. Enfin, en tous les cas, si tu veux, il aurait pu mieux négocier. C'est un peu la question. C'est un family office, donc c'est assez différent des VC classiques. Le family office, il a moins d'horizon de temps et il est là pour que tu aies la pêche et que tu fasses ton truc. Donc, s'il négocie mieux, ça veut dire que toi, t'es obligé de le faire. Tu le fais parce que t'as pas le choix. Mais après, derrière, t'as toujours un ressentiment. Et donc, tu es quand même, en tant qu'entrepreneur, un peu moins content, un peu moins efficace. Et donc, ça crée des mauvaises relations dans le board. Donc, ils n'ont pas voulu ça. Nos investisseurs historiques en ont profité pour sortir. Donc, ils ont fait une culbute et tant mieux pour eux. Et donc, tout s'est très bien fini. Et on s'est retrouvé donc avec maintenant aujourd'hui un actionnaire de référence qui a family office, qui est très très présent, qui a très bien compris notre business. Donc c'est beaucoup plus agréable qu'un VC qui n'aurait pas fait cet effort-là.
Il met pas que de l'argent.
Il met pas que de l'argent. Il connaît la situation et c'est pour ça que quelque chose malheur est bon. Si on avait réussi en bourse, c'était juste avant la crise de l'énergie. parce que c'est ça qui s'est passé. 2021, on rate la bourse et ensuite les prix de l'énergie commencent à augmenter. Et donc d'un coup, mais tout s'envole. Et il y a 4, 5, 10 fournisseurs qui font faillite en Angleterre. Et tout est en train de tomber autour de nous, quoi. Et eux, ils sont restés. Mais donc, effectivement, en décembre, c'était dur.
Quand une IPO rate, du coup, tu n'entres pas en bourse?
Non.
Et j'imagine qu'il va falloir le raconter, parce que tu l'as brièvement évoqué, mais à tous les collaborateurs, t'as dit, il va falloir les garder, etc. Mais il y avait une sorte d'émulation que vous avez commencé à créer pendant toute la préparation de l'IPO, t'évoquais les fleurs, etc. Arrive un moment où, bon, ils doivent l'apprendre par ailleurs, mais il va falloir quand même avoir un discours à toute l'équipe. Je te propose de replonger dans ce moment-là et de me raconter.
Ouais, tu vas me faire avoir beaucoup d'émotions. On a une chance folle, on a une équipe formidable. Et c'est eux. Merci d'ailleurs.
Pardon.
C'est eux qui sont venus nous aider. C'est une douleur, hein, l'IPO. Voilà, hop, ça va mieux. Et donc, non, c'est eux qui sont venus nous aider. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont reçus, qui ont fait une affiche, qui ont dit vous allez gagner, qui ont dit on va s'en sortir. Ouais.
Évidemment, je pense qu'on entend ton émotion.
Désolé.
Déjà non, parce que c'est aussi ça, la vie des entrepreneurs, c'est des montagnes russes émotionnelles permanentes. Tu vas me faire pleurer. Et t'es pas le premier à ce micro qui nous met les larmes. Tu parlais des collaborateurs. Il y a pas un entrepreneur qui réussit qui n'explique pas que c'est en ayant embauché des personnes plus talentueuses qu'eux. Mais au-delà du talent, il y a cet état d'esprit que parfois on arrive à créer de, est-ce que c'est le mot famille? Je sais pas, mais il y a quelque chose de très proche.
Équipe, confiance et soutien. C'est ça qui est important. C'est que chacun soutient l'autre quand il en a besoin.
Mais ça se crée pas, pardon, je te coupe, au moment où on va faire une levée de fonds ou un IPO, c'est day one.
Oui, je sais pas comment ça se crée et je sais pas comment ça se garde non plus.
Je voulais le tips.
Et je sais pas comment ça se garde non plus, puisque ça peut changer. La boîte est plus grande maintenant, c'est pas pareil. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est quand les gens voient le dévouement que tu apportes à construire le truc, que t'es pas à l'image du patron du CAC 40 qui en a rien à faire et qui va faire du golf, quoi. Et donc, comme les gens se rendent compte du travail que tu fais et des efforts que tu fais, ils le reconnaissent, eux-mêmes font la même chose pour leurs responsabilités. Donc, dans des startups, personne dort, hein, c'est pas possible. Et donc, et chacun apporte le soutien à l'autre quand il faut. Pas d'orgueil, juste du soutien.
Non, je l'aime vraiment bien cette rubrique, on l'avait un peu basé quand même. Premier coup de culot,
je suis parti en Pologne en 1992-13 pour faire la fin de mes études. 93, pour les auditeurs, peut-être pas tous ne comprennent, mais la Pologne, c'était le mur venait de tomber, c'était plus loin que l'Argentine, hein, dans le monde dans lequel on vivait. Et je suis parti là-bas et j'ai passé une année et demie formidable et j'ai découvert plein de choses et on est très peu à avoir pris ce coup de culot-là et ça...
Ça a drivé ta vie?
Ça a drivé ma vie, je sais pas, mais en tous les cas, oui, si, ça a drivé ma vie un peu par hasard, un peu pas, mais voilà, oui, c'était un bon coup de culot.
Premier ego trip, au moment où t'es particulièrement fier, parfois ego mal placé,
Première tribune dans le monde. Papier. Ah, j'étais content.
Écrite par toi?
Écrite par moi, oui.
Que tu as payé ou...
Non. Publié, ouais, non, une tribune écrite, voilà, dans le monde, et qu'on pitch et qui est prise dans le monde et dans le monde d'édition papier. Ouais.
Comment on a une tribune dans le monde?
Eh ben, on écrit des tribunes et puis on les pitch, et puis un jour, elles sont assez bonnes pour être publiées dans le monde.
Donc, il faut savoir à qui l'envoyer?
Oui, bah ça, on a une agence de presse qui sait à qui l'envoyer.
Et régulièrement, tu écris?
Oui, donc ça, on se l'impose. C'est un marché qui bouge beaucoup, il se passe pas mal de choses, on a des choses à dire. Moi, je suis pas au départ quelqu'un de très littéraire en écriture, j'aime beaucoup lire, mais je suis pas très bon à écrire, donc c'est un exercice qui est contre nature pour moi, mais que je me force à faire. Et donc, on choisit un sujet tous ensemble. Ou bien les gens me disent, ah ben, je t'ai entendu dire ça, faudrait que tu fasses une tribune là-dessus. Et puis, on écrit la tribune.
Donc, tu fais un premier draft. J'imagine qu'on te challenge aussi sur
oui,
le
oui,
wording,
on sur
le rythme.
Oui, on en fait,
sur,
au départ. Ouais. On se met à plusieurs, il y a l'idée, on structure. Et puis, une fois qu'on a un premier draft, je fais les finitions complètes. Et puis après, c'est nos agences qui les pitchent.
Allez, un dernier pour la route. Dernier apprentissage entrepreneurial.
Dernier apprentissage entrepreneurial. C'est tous les jours l'apprentissage entrepreneurial. Tu te retrouves à des situations nouvelles à chaque instant. Encore hier, donc pas rentrer dans le détail d'hier, mais voilà, tu as une courbe de cash et il faut qu'elle soit positive. Voilà. Donc, tu vas aller voir les gens pour essayer de retrouver l'argent. Aujourd'hui, nos clients payent en retard. Ce qui nous met vraiment avec des courbes de cash qui sont pas belles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment je parle à la direction des achats de l'État en leur disant, ce serait bien que vous payiez vos factures à l'heure, tu vois. Et voilà.
Parce qu'il y a une loi, d'ailleurs.
Oui, il y a une loi, ouais.
Je te propose une autre rubrique, mais on n'a pas de jingle. C'est, je l'ai appelé la rubrique Pascal Lorne, parce que c'est lui qui a évoqué ce sujet à ce micro. C'est le plafond de verre. On avait donc Pascal à ce micro et lui il part du principe qu'on a tous un plafond de verre. Et ça m'a inspiré cette question. C'est quoi le premier plafond de verre que tu as dû faire sauter pour en arriver là où tu es, mental, dans ton approche du monde, du business? J'essaie de te donner des options de réflexion.
Je sais pas si c'est un plafond de verre, mais en tous les cas, lâcher une carrière de salarié qui marche bien, où tu gagnes très bien ta vie, pour décider de créer ta boîte dans un secteur que tu connais pas ou très très peu, et te lancer là, c'est aussi un cul de culot d'ailleurs aussi. Oui, ça c'était pas simple. Et donc, je sais pas si c'est un plafond de verre, mais en tous les cas, tu
t'es fait violence.
Oui, c'était pas facile. Si tu veux, je c'est une mélange de plafond de verre, d'ego trip et de culot. Je me rends compte que il y a un changement climatique et qu'il faut faire quelque chose. Je me rends compte que c'est pas le fait d'arrêter son robinet quand on se lave les dents qui va suffire. Et je me dis, tu fais le fier en disant que t'es quelqu'un capable de créer des boîtes et de gérer des tas de trucs parce que c'est ce que tu fais en tant que salarié. Donc arrête maintenant.
Fais-le vraiment.
Fais-le quoi. Ouais. Vas-y, go. Et puis vas-y, fais-le, et puis tu le fais pas, et puis tu le fais pas, et puis tu continues à gagner ton argent. Et un jour, j'ai dit, pourquoi je le fais pas, en fait? Et je me suis dit, c'est parce que je me considère comme pas assez compétent. Et donc, j'ai choisi un master, et j'ai fait un master dans l'énergie avec l'ambition de. Et donc, ça, c'était.
Retour sur les bancs de l'école, quoi.
Ah ouais, ouais.
Tout le monde, mais ça,
à 36 ans, ouais.
Là, enfin, c'est une forme aussi de coup de culot, ça, parce que tout le monde le fait pas pour plein de raisons. Je suis trop vieux, je suis pas capable.
C'était une manière de m'obliger, je pense. Ouais.
Il reste un plafond de verre sur lequel tu travailles encore.
Ah oui, bien sûr. Enfin, nous, à Équateur, c'est pas fini, hein. Et est-ce qu'on va y arriver à en faire une société qui croit toute seule, qui a plus besoin de nous?
Moi, j'ai encore besoin de toi, au moins, pour cette rubrique. Allez, j'ai besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Au moins, la France a besoin de toi, Julien. Quelle est ta première mesure, ton grand programme?
En tant qu'homme politique? Bah, écoute, je vais te donner la première mesure. Et par contre, elle est malheureusement inapplicable. Et après, si on a le temps, je t'expliquerai pourquoi. Mais donc, évidemment, moi, je voudrais taxer les énergies fossiles. Point barre. Beaucoup plus. Le kérosène, le premier, et puis tout le reste. Et donc, tu peux te dire, je vais être président, je vais le faire.
Et une fois que tu as dit ça.
Mais tu le fais pas, en fait. Parce que un homme politique n'impose pas, ne peut pas imposer. Ou impose un petit peu, mais pas beaucoup. On a essayé de faire une taxe carbone. Il y a eu d'abord les bonnets rouges en Bretagne. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Maintenant, il y a les agriculteurs. Les gens n'en veulent pas.
C'est plus facile de défendre une cause quand on est une couleur rouge, jaune. Enfin, mais c'est.
mais les agriculteurs, je sais pas s'ils ont un truc aussi. Mais si tu veux, moi je me suis fait une réflexion. C'est qui part d'une phrase de Camus. Camus dit ok, les gens disent la fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui justifie la fin? C'est une bonne question, ça. Quand tu dis la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Et est-ce que la fin, c'est sauver la planète? Moi, non. En fait, la planète, elle va survivre à l'homme. Peut-être il y aura plus d'ours blancs, mais il y aura des pieuvres géantes. Peut-être il y aura plus de lapins, mais il y aura des scarabées volants. Et puis, la vie continuera. C'est tout. Et donc, en fait, je suis pas là pour sauver la planète.
En fait, tu parles de l'humanité.
Je suis là pour l'humanité. Et sauver l'humanité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, je me dis simplement, le changement climatique, s'il est mal géré ou s'il est trop fort, va créer une situation intenable, famine, déplacement de population, guerre civile, Mad Max. Mad Max 2, qui est pour moi l'horreur absolue. Et donc, ce pourquoi je me bats, c'est d'éviter la guerre civile, en fait, et de m'assurer que mes enfants ne vont pas se retrouver dans des situations, parce qu'on voit dans tous les endroits où localement il y a des guerres, Ukraine, Israël, Palestine, c'est des situations atroces pour les civils, atroces. Et je n'ai pas du tout envie de le vivre, et encore moins que mes enfants le vivent. Et donc, finalement, mon ambition, ce n'est pas de sauver la planète, c'est d'éviter la guerre civile. Et si pour éviter la guerre civile, j'impose des mesures
qui font un peu de bagarre,
qui nécessitent la guerre civile, en fait, j'ai raté mon truc, quoi, tu vois. C'est pas, non. Et donc, c'est pour ça que c'est à nous de convaincre. Et je pense que les entreprises sont beaucoup plus capables de faire changer les habitudes que les hommes politiques. Alors, elles le font dans leur intérêt, malheureusement. Mais si tu veux, moi, quand les téléphones portables sont sortis, j'en voulais pas. Voilà, parce que je trouvais que ça servait à rien.
Après, le politique, il a quand même la capacité d'accélérer certaines innovations, de mettre des budgets pour rendre plus accessible ce qui est vertueux. Ça reste quand même... Il n'y a pas zéro influence du politique,
non, il va
heureusement.
Guider. Ouais, voilà. Mais il ne va pas générer. Quand on a décidé que fumer était interdit dans les restaurants, si les gens n'avaient pas été d'accord, ça n'aurait pas marché. Donc, le politique a fait une loi, mais en fait, les gens étaient déjà d'accord. Et alors, qu'est-ce qui a amené les personnes d'accepter de plus fumer dans les restaurants? C'est ça qui m'intéresse, moi. Je ne sais pas si tu vois, mais dans les années 70, il y avait eu un 1er avril, c'était « il est interdit désormais de fumer dans les restaurants sur le 21 ». Donc, c'était absurde au point d'en faire un 1er avril, quoi. Et en fait, c'est devenu une évidence dans les années 2000. Donc... moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est changer ces mentalités-là, ces habitudes, cette façon de penser, en donnant envie, et c'est notre métier, le commerce, donc on sait donner envie, et puis derrière, bah, les politiques vont suivre et amplifier le projet.
Mais les meilleurs moyens, et tu l'as dit tout à l'heure, de changer les mentalités, c'est de montrer que fin du monde, fin du mois, ça ne s'oppose pas, qu'on peut avoir de l'énergie verte, vertueuse, accessible, et parfois même en dessous du prix de certaines énergies fossiles.
Ben, c'est ce qu'on pense.
Voilà. Et c'est ce que vous faites.
Et c'est ce qu'on fait aussi.
Il ne suffit pas de le penser. Gilles Tchernia, président, il a d'autres choses à proposer?
À qui?
Au monde.
Au monde?
À moi?
Non, moi, je fais le maximum. En fait, si tu veux, c'est assez intéressant aussi. C'est, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va éviter la fin du monde dont tu parlais tout à l'heure? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je ne sais pas faire plus ni mieux qu'Équateur. Je mets toute mon énergie là-dessus. C'est ma limite de compétence. C'est là où j'en suis. Je proposais d'autres choses, je sais pas. Pour l'instant, j'ai ça à proposer, faut que j'aille au bout.
Moi, faut que j'aille au bout de cet échange.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
On fait pas un 40 nuances de Next sans passer par là. Tu peux fermer les yeux, t'allonger, t'as entendu le petit bruit de l'eau qui produit de l'énergie. On va aller sur ce qui, justement... te permet de régénérer ton énergie d'entrepreneur. On sait que c'est quand même des vies à 100 000 à l'heure, qu'il faut se préserver, que c'est pas qu'un sprint, c'est aussi un marathon. Des fois, il faut rouler à 180 dans les virages et être encore là au bout de la course, donc c'est pas simple. C'est quoi, toi, qui te permet de trouver l'équilibre à la fois personnel, intellectuel, énergétique?
Le vin blanc. Non, sérieusement, ma famille. Moi, je suis très papa poule. Je suis très proche de mes enfants. Le fait d'être entrepreneur.
Jusqu'au jour où tu leur annonçais que ta plus grande passion, c'était pas elle, mais l'énergie.
Voilà, non, c'est elle qui l'ont deviné, ça. Mais si tu veux, en tant qu'entrepreneur, tu as une flexibilité d'agenda quand même, qui te permet de t'occuper bien de tes enfants, si tu veux, parce que tu peux déplacer une réunion d'une heure, etc. Et donc, ma famille et mes enfants, bah, c'est un moyen de te ramener. Tu as besoin de 10 millions d'euros et puis le soir, il y a une mauvaise note en physique, quoi.
Et c'est plus grave.
Et c'est une catastrophe. Et ouais. Donc, il faut s'en occuper. Et ça te ramène à des niveaux de réalité qui sont différents et qui te permettent de revenir un peu sur, sur Terre et de te régénérer parce que bah, derrière, tu aides quelqu'un et puis voilà.
On voit beaucoup, mais moins qu'avant, j'ai l'impression d'entrepreneurs qui donnent tout à leur entreprise. À leurs ambitions professionnelles, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est pas ça que je juge, mais effectivement, quand on oublie le bah, le temps plus personnel dédié à ses proches et des fois avec des regrets à la fin, ton idée c'est j'aurais pas de regrets.
Oh, je sais pas, moi en tout cas chacun son équilibre, je vais pas juger, c'est le mien. Donc on n'a pas tous la même fibre de vie et de relation. Et donc moi, j'ai pas de regrets. Moi, c'est la plus belle aventure que j'ai faite, Équateur, et ma famille, tout va très bien. Et donc, tu veux, il y a si demain, et je ne le souhaite pas, mais on doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, je recommencerai mille fois. J'ai jamais été aussi heureux que dans les difficultés auxquelles j'ai été confronté en créant Équateur.
On fait un gros flashback dans ta vie, souvent. On essaie de replonger dans les racines de l'entrepreneur et d'aller questionner dans son enfance ce qui a fait de lui l'entrepreneur qu'il est devenu aujourd'hui. Je sais pas s'il y avait des mantras familiaux. Je m'étais noté une jusqu'à découvrir que finalement Pierre Tchernia n'était pas ton père mais ton grand-oncle. N'empêche que lui, il était pionnier de la télévision. Cet esprit pionnier comme tu l'es aujourd'hui avec Équateur dans l'énergie verte, est-ce que c'est quelque chose qui a irrigué la famille? Je te vois faire des gros signes. Non. Pas du tout.
Mon père est prof et archéologue. Ma mère était ingénieur chez BP, British Petroleum, et syndicaliste très militante. Voilà. Il n'y avait pas de, pas d'exemple d'entrepreneur dans la famille proche, pas du tout. Mon oncle était médecin, voilà. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai eu la chance de tomber dans les années 2000 dans une boîte qui s'appelait Altran avec une équipe formidable en Belgique où il y a des gens qui m'ont donné des responsabilités que je ne pensais pas être capable d'assumer. Et en fait, ça a très, très bien marché. Et j'y ai pris goût. Et donc, à partir de là, bah, tu prends goût et tu le fais. Et puis après, il y a un moment où tu te dis, bah, je le fais tout seul, j'ai plus besoin des autres. Et donc, tu le fais.
S'inspirer. Respirez.
En deux mots, au-delà de la famille qui te permet une vraie inspiration dans ta vie, comment tu vas chercher l'inspiration plus largement?
Tous les jours. J'arrête pas non plus sur tout. C'est-à-dire que quand on me vend quelque chose et que je suis content, je me dis comment ils ont fait. Quand je vois un débat politique et des gens qui sont plus convaincants que d'autres, je me dis comment ils ont fait. Et tout le temps, et je me nourris de ça. Je pense que je ne crée rien, je ne fais que copier des tas de choses que je mets ensemble.
Mais qui viennent d'un peu partout.
Qui viennent de partout. N'importe qui peut m'inspirer, un steward qui fait un truc drôle dans l'avion, tu vois, si je prends beaucoup moins l'avion qu'avant. Non, mais là, en fait, dans le TGV, il y a un mec qui a fait des blagues tout le temps en allant au ski, qui nous a mis à la fin la musique de la musique des Bronzés Fonds du ski dans le TGV pour aller au ski. Tu te dis, voilà, tu peux tenter, tu peux aller loin, tu peux le faire. Donc, tout ça inspire beaucoup. Ouais, je me nourris de ce que je vois autour de moi.
Tu as toujours été aussi curieux?
Oui, je pense que oui, ça, ouais. Ouais, toujours aussi curieux. Ouais.
Et tu arrives à le transmettre à tes enfants?
Oh ben, je ne sais pas, il faut leur demander. On verra, je ne sais pas.
On évoque souvent l'héritage, pas patrimonial, mais philosophique qu'on a envie de laisser derrière soi. Le jour où on écrira ton épitaphe, qu'est-ce que t'aimerais lire?
Oh là là, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais lire sur mon épitaphe? Merci. À avoir été utile, quoi. Ouais.
J'ai volontairement laissé le blanc. Je trouvais beau ce merci. C'est ce qu'on cherche peut-être tous. Hein. Mm. À la fin, et la fin de ce format, c'est jamais sans une Sista. J'en profite pour rappeler à un ancien invité, Paulin Pascot, qu'il nous doit toujours un nouveau jingle pour cette rubrique. Je sais qu'il était occupé par de très heureux événements, donc on lui en tient pas rigueur. Quoi qu'il en soit, c'est bien le moment de la Sista. Le palmarès Next 40, FT120 jusqu'ici était quand même très masculin. On verra si ça change justement avec la nouvelle promo. Mais du coup, dès le début de 40 nuances de Next, on avait à cœur de donner plus à voir et à entendre les championnes aussi de la tech. Et donc, on demande à nos invités masculins de mettre en avant une femme qu'ils admirent et à qui on donnera la parole à cette antenne entre les mains de Solène et Tienne.
Et bien donc, je vais te parler de Marine Bibal, qui est une star absolue. Bonjour Marine. Marine, je l'ai recrutée quand j'étais chez L'Empiris comme responsable B2B. Ça a été la première personne que j'ai recrutée en France. Et elle est arrivée comme ça et elle a cartonné. Elle a cartonné. C'est quelqu'un qui fait un truc, ça marche pas, vient te voir, te dit ça marche pas, tu lui dis ben oui, fais comme si, et elle a compris, c'est pas à peine de dire deux fois, elle le fait, elle l'adapte, et après ça marche tout seul. Donc c'est un bonheur de l'avoir comme employée, quoi. C'est vraiment, ça dépose.
Elle réfléchit vite, elle exécute très bien.
Elle comprend, elle se remet en cause, elle fait tout ça. Et puis moi j'ai quitté L'Empiris, et puis elle aussi, puisqu'ils ont été rachetés par Total. Et elle a créé une boîte avec.
T'as essayé de la recruter après.
Ouais, j'ai essayé de la recruter après, mais je suis revenu trop tard. C'est-à-dire, je l'ai pas pris au début parce que on devait pas faire du B2B. Et puis elle est partie s'installer à Avignon. Et puis après, elle voulait pas revenir à Paris, ce que je peux comprendre. Et puis après, elle a créé cette boîte avec cet associé.
Tu rappelles le nom de la boîte? J'ai un doute si tu l'as mentionné.
C'est EasyPicky.
EasyPicky.
Voilà, ils font de la reconnaissance d'image dans les supermarchés. Elle t'expliquera. Mais en tous les cas, ça marche à fond et on se voit toujours souvent. Et c'est quelqu'un qui vraiment est. Tu vois, tu disais des gens qui sont meilleurs que toi, elle est meilleure que moi, Marine.
Elle expliquera et puis elle répondra aussi à la question que tu vas lui poser tout de suite. Tu peux t'adresser à elle. On fera l'encapsulage de ta question et on lui diffusera.
Marine, mais pourquoi un troisième enfant? Alors ça me dépasse.
Ah, très perso, très perso.
Très perso, oui. Très perso.
Eh ben,
une deuxième question. Marine, comment tu trouves, en tant qu'entrepreneuse, le temps de continuer tes combats féministes?
Tu veux une troisième pour la route?
Non, c'est bon.
On dit jamais 203.
Non, c'est bon.
Un immense merci.
Je t'en prie.
D'avoir à la fois répondu à nos questions, répondu à notre invitation et puis t'être permis, autorisé de lâcher ce que tu avais envie de lâcher au moment où tu avais envie de le lâcher. Si tu m'autorises, je vais garder ce passage parce
que. Oui,
qu'il
oui
est...
bah c'est tu vois, c'est émotionnant, c'est marrant que 3 ans après. Tu vois, ça reste en fait. J'avais pas et t'en reparler, c'est à la fois un souvenir d'une douleur et d'un plaisir. Et donc ça fait une émotion. Ben voilà.
On aime les émotions ici. Merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Au revoir.